Europe Soir, le 18-20, édition spéciale élection américaine.
Julien Bugier.
Et on est ensemble, évidemment, comme chaque soir jusqu'à 20h, avec notre édition spéciale qui se poursuit à l'heure américaine. Le journal dans quelques secondes, et puis le club des idées consacré aux enjeux. Et ils sont nombreux de cette élection qui pourrait changer le monde. Joe Biden ou Donald Trump, qui sera ce nouveau président des États-Unis? Faut-il craindre une crise institutionnelle? Certains évoquent de possibles violences. L'Amérique, ce soir, se barricade. On en parlera donc avec nos invités. Et puis juste avant, à 19h15, ce sera la carte blanche de la philosophe Juliette Funès pour un portrait revisité, vous verrez, du président Trump. Le journal avec Isabelle Millet. 19h en France, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Ça fait 4 ans qu'on en parle. Et je suis sûre et certain qu'on n'aura pas une réponse définitive ce soir.
Alors réponse ou pas, en tout cas cette fois on y est presque, l'Amérique retient son souffle.
Oui, les partisans de Joe Biden croisent les doigts et espèrent que cette fois les sondages ne se tromperont pas.
Nous serons d'ailleurs à Wilmington dans le Delaware, le fief du candidat démocrate dès le début de ce journal avec Loubna Anaki.
Et avec Xavier Yvon toujours en direct avec nous, on aura également les tout derniers échos de cette campagne complètement folle.
Dont les heures à venir s'annoncent tout aussi folles, hein, nuit blanche en vue.
Dans l'actualité également ce soir, c'est aussi l'hommage à Conflans-Sainte-Honorine, des élèves et des anciens collèges de Samuel Paty.
Des mots pour exprimer leur angoisse et des camarades pour partager la douleur.
Les premiers tests antigéniques viennent d'arriver, ça y est, dans les pharmacies.
Avec un résultat entre 15 et 30 minutes, ce test réalisé sur le même mode opératoire que le PCR est donc beaucoup plus rapide. Et puis le foot, Porto, OM, ce soir en Ligue des Champions, les Marseillais n'ont pas le choix, ils doivent gagner.
La tendance météo avec Anissa, la journée s'annonce plutôt fraîche, mais ensoleillée demain.
Oui, fraîche, surtout le matin, Julien, avec des gelées blanches, ça y est, elles arrivent, elles sont de saison. Par endroits, nous aurons des valeurs négatives, mais dans le ciel, le soleil s'impose sur toute la moitié nord. La journée sera très agréable. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
4 ans de plus avec Donald Trump ou bien un changement de ligne radical avec Joe Biden, le président républicain sortant ou bien l'ancien vice-président démocrate, deux lignes et deux styles radicalement opposés.
Les premiers bureaux de vote ont ouvert sur la côte est à midi heure française et les États-Unis étant un vaste pays traversé par 4 fuseaux horaires, le scrutin s'achèvera avec la fermeture des bureaux de la côte ouest vers 4h du matin, heure française. Les tout premiers chiffres sont donc attendus chez nous vers 1h du matin.
Oui, alors dans les sondages, vous le savez, en tout cas c'est Joe Biden, qui est en tête depuis des mois, avantage aux démocrates, mais méfiance, on n'a pas oublié, bien sûr, la victoire surprise de Trump il y a 4 ans contre Hillary Clinton, pourtant elle aussi favorite.
On va tout de suite partir justement dans le fief de campagne de celui qui sera peut-être le prochain président américain, Wilmington, dans le Delaware, où vous vous trouvez pour Europe 1, Loubna Anaki, et où l'on se prépare évidemment à une longue nuit d'attente.
Oui, et ce devrait être une soirée électorale assez particulière pour le candidat démocrate sous forme de drive-in sur un parking, un peu comme les meetings que Joe Biden a organisés lors de sa campagne pour respecter les restrictions sanitaires liées à la pandémie. L'ancien vice-président devrait faire un discours lors de la soirée, probablement lorsque les premiers résultats vont commencer à tomber. Ici, dans son fief, il ne fait aucun doute que le Delaware sera démocrate. Joe Biden concentre donc sa journée sur la Pennsylvanie voisine, l'un des états clés pour la victoire. Il s'est rendu ce matin dans sa ville natale de Scranton, sur le mur du salon de sa maison d'enfance. Il a écrit cette phrase, de cette maison à la Maison Blanche. On verra si ça lui portera chance. En tout cas, il espère mobiliser le plus d'électeurs possible avec ses déplacements de dernière minute, car même si les sondages lui donnent une légère avance sur Donald Trump, ça reste très très serré entre les deux hommes en Pennsylvanie. En 2016, Hillary Clinton avait perdu l'État avec tout juste 44 000 voix de retard sur Donald Trump.
Merci beaucoup Loubna Anaki en direct dans le Delaware, donc le fief de Joe Biden. Et direction maintenant New York où l'on vous retrouve, Xavier Yvon, correspondant permanent d'Europe 1. On a eu le plaisir, Xavier, de vous avoir avec nous tous les soirs à 19h hein, depuis 3 semaines maintenant pour votre journal de campagne. C'est donc le dernier soir. Bonsoir, Xavier.
Hello again, bonsoir à tous.
Oui, alors les bureaux de vote vont fermer, on l'a dit, dans la nuit pour nous. Et les premiers résultats vont commencer à tomber. Comment ça va se passer?
Alors, pour la faire courte, si les sondages se vérifient, ça devrait être rapide avec une victoire confortable de Joe Biden. Mais si c'est plus serré que prévu, on a déjà vu ça, hein, alors là, tout est possible. Ça pourrait même prendre des jours avant d'avoir un vainqueur. Ce qu'on va regarder en premier cette nuit, c'est le sud-est du pays. Floride, Géorgie, Caroline du Nord, qui normalement devrait avoir fini de dépouiller assez tôt. Si Joe Biden gagne l'un de ces États, il est presque sûr d'être élu. S'il n'en gagne aucun, alors là, les chances de Donald Trump remontent et ça se jouera dans le Midwest où le décompte devrait être beaucoup plus long, notamment en Pennsylvanie. On n'arrête pas d'en parler, c'est dans cet état. Les bulletins envoyés par la poste sont acceptés jusqu'à 3 jours après l'élection, à condition qu'ils aient été envoyés aujourd'hui ou plus tard. Il reste aussi un joker à surveiller, le Texas, bastion républicain. Normalement, la participation là-bas est déjà historique et on ne sait pas à qui ça va profiter. Le dernier sondage mettait Trump et Biden à égalité.
Oui, et on se souvient que ça avait mis 36 jours à départager W. Bush de Al Gore, c'était en 2000, donc patience, oui, en Floride. Il ne faut pas oublier, Xavier, qu'il n'y a pas que les noms Trump et Biden sur les bulletins de vote aujourd'hui.
Bien sûr, il n'y a pas que la présidentielle. On renouvelle aussi une partie du Sénat que les démocrates rêvent de faire basculer pour réussir un grand chelem, en conservant aussi la Chambre des représentants qui est en jeu également. Pour le Sénat, on surveillera particulièrement la Géorgie où Lindsey Graham est un sénateur très proche de Donald Trump et très en difficulté. Et puis dans chaque État, il y a des élections de gouverneurs, d'assemblées locales, de juges, de shérifs, des référendums sur tous les sujets. Alors la légalisation du cannabis, le salaire minimum ou encore la dépénalisation des champignons hallucinogènes à Washington.
On
va terminer. Allez, ce dernier journal de campagne en musique, Xavier, s'il vous plaît.
Oui, parce qu'en cette fin de campagne, les deux candidats ont chacun fait entendre leur petite musique. Alors, c'est le rappeur Eminem pour le dernier clip de Joe Biden, un appel à la classe moyenne travailleuse du Midwest. Si tu as une opportunité, ne la gâche pas, dit le clip. Côté Donald Trump, c'est une toute autre ambiance. Voilà, le président a tweeté un montage vidéo de ses meilleurs pas de danse, ou plutôt enfin, de ses mouinets de bras, sur YMC et The Village People, devenu l'hymne de ses fins de meeting. C'est donc désormais aux Américains de dire quelle air ils choisissent pour les 4 prochaines années.
Et on n'a pas vu Kanye West d'ailleurs en parlant de vedette.
Non, mais il est sur le bulletin de vote dans certains États. Il n'a pas réussi à être sur le bulletin de vote partout.
Supporter républicain donc de Donald Trump. Merci infiniment Xavier. Xavier que l'on retrouvera bien évidemment tout au long de cette soirée, de cette nuit américaine. Et également demain, bon courage pour cette nuit blanche Xavier, dans la matinale
Merci.
De Mathieu Béliard.
Oui, c'est nuit blanche effectivement, c'est comme tous les 4 ans. Et nuit blanche sans doute aussi hein, pour les Américains, partout dans le monde, notamment en France.
Oui, sauf pour Marie Campbell, cette Américaine qui vit en région parisienne depuis plusieurs années. Et elle va faire une pause cette nuit, histoire de pouvoir affronter les résultats demain.
Et oui, elle qui s'inquiète surtout du climat et des éventuels débordements qui pourraient avoir lieu à l'annonce de ces résultats.
Je suis anxieuse. En fait, je suis inquiète pour mon pays sur plusieurs niveaux, sur le système de santé, notre quotidien qui est si violent, mais aussi pour nos élections. Je suis inquiète de ce que ça peut se produire dans les rues, vu les manifestations qu'on a. Déjà, vu la façon que Trump inspire le chaos dans la rue, je me dis que ce soir-là, on peut peut-être voir des choses assez impressionnantes dans les rues. Donc, j'ai peur pour ça, quels que soient les résultats. Cette nuit, je me repose. Je trouve que cette saison d'élection était si fatigante. Elle a commencé si tôt. Le jour après l'élection de Donald Trump, on a, en tant que démocrate, tout de suite pensé à comment est-ce qu'on peut défaire cette chose. Donc, ça fait 4 ans qu'on en parle. Et je suis sûre et certaine qu'on n'aura pas une réponse définitive ce soir. Soir, je dors.
Voilà.
Je verrai ça demain.
Mary Campbell, une Américaine de France. Bonne nuit. Elle était au micro européen de Mathieu Bock.
19h08, vous restez avec nous car on va en reparler évidemment de cette élection américaine avec nos invités dans le Club des idées, avec la philosophe aussi Julia De Funès. On s'intéressera notamment à ce que cette élection peut changer pour nous, Français, pour nous, Européens, et puis à cette fracture qui divise aujourd'hui l'Amérique. En France, l'actualité, c'est le retour en classe ce matin pour les élèves du collège du Bois d'Aulne, dans lequel enseignait Samuel Paty, un moment que les élèves, comme les enseignants, appréhendaient.
Oui, cette journée a commencé par une minute de silence. Un psychologue était présent pour permettre à ceux qui le souhaitaient d'exprimer leur angoisse. Kylian était l'un des anciens élèves de Samuel Paty.
C'était vraiment très dur, parce que de se dire qu'on connaît la personne, que c'est notre professeur qui nous a appris l'histoire, qui nous a appris la géographie, qui nous faisait vivre tout ça, qui nous faisait vibrer lors des cours d'histoire. Franchement, c'est compliqué, c'était très compliqué même. On a parlé de comment on se sentait dans notre corps. Et à la fin du cours, on a fait des dessins ou ce qu'on voulait, enfin c'était un peu libre on va dire, sur ce qui pouvait représenter Monsieur Paty et la liberté d'expression. Moi j'ai dessiné un drapeau de la France avec, au lieu d'écrire liberté, égalité, fraternité, j'ai écrit liberté, égalité, laïcité. Et j'ai écrit une phrase qui nous avait dit « La dernière des barrières contre la barbarie, c'est les droits de l'homme ». Et c'était les dernières paroles qu'il nous a dit à la fin du cours qu'on a eu avec lui. Le seul hommage que je pourrais lui rendre, c'est d'avoir une très bonne note lors de mon brevet et lors de mon bac en histoire géo. C'est vraiment le seul hommage que je pourrais fortement lui rendre.
Le très bel hommage de Kylian, élève de Samuel Paty.
Et on lui souhaite d'avoir la meilleure note possible.
Évidemment. L'enquête en Autriche, moins de 24 heures après l'attaque qui a fait 4 morts dans le centre de Vienne. À ce stade, il n'y a pas de preuve de l'existence d'un deuxième tireur. Quant au tueur abattu par les policiers, il avait prêté allégeance à l'État islamique qui, à l'instant, vient d'ailleurs de revendiquer cet attentat. Il avait été condamné l'an dernier pour avoir tenté de rejoindre la Syrie. Il a réussi à déjouer le programme de déradicalisation et tromper la vigilance des personnes chargées de son suivi.
Oui, c'est une info importante, effectivement, l'EI vient de revendiquer l'attentat de Vienne via son agence de propagande habituelle.
Et ce soir, on a appris l'arrestation de deux personnes en Suisse près de Zurich en lien possiblement avec cet attentat.
Europe 1, Julien Bugier.
Vous restez avec nous 19h10 dans un instant suite de notre édition spéciale, mais on parlera également de ce qui se passe en France avec ce nouveau test contre le Covid qui arrive en pharmacie. Moins cher, plus rapide, mais un peu moins fiable.
Et puis, allez l'OM.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
La suite de votre journal 19h12, Isabelle Millet, avec un outil supplémentaire dans la lutte contre la propagation du Covid, les tests antigéniques, ça y est, ils sont enfin disponibles en pharmacie.
Et oui, ça fait un moment qu'on les attendait, ces tests, Victor Dolande, des tests beaucoup plus rapides que les fameux PCR.
Oui, il faut attendre 20 à 30 minutes seulement pour avoir le résultat, contre 2 à 3 jours pour une PCR. Le prélèvement se fait toujours dans le nez, à l'aide d'un écouvillon. Ces tests antigéniques vont permettre d'élargir le dépistage et d'accélérer le fameux triptyque tester, tracer, isoler. Méfiance tout de même, ces tests sont moins fiables que les tests PCR, comme l'explique Karine Wolfenthal, présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Pour les personnes qui sont fragiles et qui pourraient faire une forme grave, il faut privilégier le RT-PCR pour éviter de passer à côté de ce qu'on appelle un faux négatif, c'est-à-dire un résultat qui serait rendu négatif alors que la personne a bien la Covid.
Ces tests sont également moins chers, 8 euros hors prélèvement contre 54 pour une PCR, mais il ne faut pas non plus que les Français se ruent dans les pharmacies pour se rassurer, comme le demande Olivier Rosaire, président de l'URPS pharmacien de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
C'est pas parce qu'on peut avoir un résultat en 20 minutes pour toute personne en toute 65 ans qu'il faut venir se faire tester. Alors je précise que c'est un test par semaine et par assuré, hein, on peut pas venir se faire tester tous les jours.
Ces tests antigéniques seront également très précieux dans les aéroports. À partir de samedi, tous les passagers arrivant de l'étranger, à l'exception de ceux en provenance d'États européens, devront obligatoirement se faire tester.
Victor Dolande du service Société d'Europe 1.
Un couac, une bourde, appelez ça comme vous voulez. Le Premier ministre, lui, préfère parler de maladresse.
En tout cas, l'opposition s'en donne à cœur joie après le cafouillage autour d'un éventuel couvre-feu en Île-de-France, couvre-feu qui viendrait s'ajouter au confinement. Il a été annoncé ce matin par le porte-parole du gouvernement. Avant un rétropédalage de Matignon, rien n'est décidé pour l'instant, même si des discussions sont en cours, semble-t-il, sur cette question.
Les sports avec le foot et l'Olympique de Marseille qui défient ce soir le FC Porto en Ligue des Champions.
Les Marseillais qui sont au pied du mur après deux défaites en deux matchs, ils doivent cette fois au moins accrocher un match nul. On vous retrouve à Porto, Jean-François Pérez. Mission difficile, hein ?
Oui, Isabelle, l'OM qui n'a jamais battu le club portugais dans son histoire. L'OM qui reste sur l'effarant bilan de 11 défaites d'affilée en Ligue des Champions. 6 buts marqués, 24 encaissés. Une impression déplorable. Si les Marseillais perdent ce soir, ils égaliseront le record absolu en Ligue des Champions. Le bonnet d'âne, détenu depuis 15 ans par les Belges d'Anderlecht. Et si l'on se fie aux deux matchs ratés face à l'Olympiakos et à Manchester City, c'est hélas une hypothèse à prendre très au sérieux pour un club qui avait été sacré champion d'Europe il y a un quart de siècle. Reste à espérer ce soir une prise de conscience. Écoutez Dimitri Payet, le meneur de jeu marseillais.
Je pense que c'est la dernière chance, on va dire. Après 0 points en deux matchs, bien évidemment que les supporters peuvent attendre autre chose, nous aussi. Voilà, on est conscient du fait qu'il faut faire plus, qu'il faut faire beaucoup plus, parce que c'est une compétition qui est exigeante et qui demande vraiment qu'on soit tous à notre meilleur niveau.
Payet critiqué ces dernières semaines et qui fera ce soir son retour dans le 11 titulaire aux côtés de Thauvin et de Dario Benedetto. Le trio inoffensif, c'est la moquerie des supporters de l'OM, est reconstitué. Le très populaire entraîneur de l'OM, André Villas-Boas, de retour dans sa ville natale ce soir, devra retrouver sa magie pour éviter une fin de soirée à ressasser sa saudade, sa mélancolie, comme on dit ici, dans un verre de Porto.
Jean-François Pérez qui nous fera vivre en fil rouge hein, depuis Porto, donc ce match coup d'envoi à 21h.
Merci Isabelle, on vous retrouve demain à partir de 18h. La météo.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Voilà la météo avec Anissa qui nous dit qu'il va falloir penser à se couvrir demain matin.
Oui, si jamais vous travaillez, que vous n'êtes pas en télétravail, si vous emmenez les enfants à l'école, eh bien demain, il va falloir tous se couvrir et grosse doudoune puisque c'est le retour des gelées blanches demain matin avec des températures négatives sur la moitié nord, des valeurs entre 0 et 4 degrés des Hauts-de-France jusqu'à l'Auvergne et jusqu'à 12 degrés dans le sud. Il fait donc frais demain matin. Au meilleur de la journée, les températures baissent aussi avec 8 degrés au Puy-en-Velay l'après-midi, un 9 9 à Saint-Etienne, 10 à Clermont-Ferrand, 12 à Paris et à Lyon, 13 à Toulouse, 16 à Nîmes et 20 pour Ajaccio, c'est la maximale. Alors dans le ciel, là ça va beaucoup mieux que du côté du thermomètre puisque sur la moitié nord c'est grand soleil et puis au sud de la Loire, le ciel est un petit peu plus voilé mais ça reste agréable, le temps est sec et calme. Dans les Pyrénées, toujours de la pluie et de la neige des 1000 mètres et au bord de la Méditerranée, Mistral et Tramontane qui soufflent encore plus fort
comme
demain.
Comme d'hab, j'ai envie de dire.
On ne change rien.
Merci Anissa, on vous retrouve demain à partir de 18h. 19h16, on ouvre maintenant comme chaque soir le Club des Idées spécial élection US.
Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide, c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Avec d'abord la carte blanche, un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir la philosophe Julia de Funès. Bonsoir Julia.
Bonsoir Julien.
Alors ce soir Julia, vous aussi, vous vous êtes mis à l'heure américaine d'une certaine manière et vous êtes à contre-courant si j'ose dire.
Oh, j'ose, contrairement à ce que prévoient tous les sondages, j'ose un pari, la victoire de Trump. Et je n'ai aucune compétence politique américaine, aucune envie que Trump gagne, mais du point de vue symbolique, il me semble encore assez bien placé.
Pourquoi ?
Je vais prendre trois exemples.
Oui.
L'Amérique est une patrie de cinéma, de fiction et d'acteurs. Or, Trump reste un homme de cinéma. Ce qui compte pour lui, c'est moins ce qu'on croit que ce qu'on voit. Trump est un homme scopique. C'est un épuisement du contenu au profit du signe extérieur. C'est une pantomime à lui tout seul. Peu importe l'authenticité du message, ce qui compte, c'est davantage l'image de l'idée que l'idée elle-même.
Et en cela, il est très différent de Biden ?
Biden a geste plus retenu, plus précis, oui. Moins, mais sans volume. Or, l'Amérique est le pays du volume. Trump propose des gestes excessifs jusqu'au paroxysme de l'exagération. Et le rythme des campagnes américaines est scandé par l'amplification rhétorique, l'emphase des gestes et des mots. Hillary Clinton hier ou Biden aujourd'hui me semble trop raisonnable pour oser chavirer dans un désordre triomphal, un débordement passionnel propre aux États-Unis. Ce sont des humains, autrement dit des êtres qui s'empêchent, si je reprends une phrase célèbre de Camus, vous savez, dans Le Premier Homme, un homme ça s'empêche. Trump n'est pas un homme en ce sens-là, il ne s'empêche de rien, c'est une essence, c'est-à-dire un personnage unique, permanent, une entité, dont les actes finalement ne sont que des épiphénomènes disposés dans le temps. Ce caractère stylisé, cette forme facilement circonscrite, ce dessin animé ne peut que séduire le pays de Walt Disney, celui des images statiques donnant l'illusion d'un mouvement et d'une histoire. Et enfin, dernier point, il y en aurait vraiment beaucoup d'autres, mais enfin, Trump peut irriter, agacer, faire honte, mais jamais il ne déçoit ses électeurs les plus fidèles, car il accomplit jusqu'au bout, par une solidification progressive de ce qu'il incarne, ce que son public attend de lui. Ne laissant rien dans l'allusion, le doute ou l'ombre, il donne une signification pure, claire et pleine comme une grosse lune, fierté américaine, de ce qu'il vise. On sait où il va, on sait qu'il ira, c'est une aventure de la puissance, d'une certaine façon, ce Trump. Donc je ne sais pas, pour être plus sérieux, je ne sais pas évidemment si cet homme incarnera encore la présidence américaine demain, mais la suprématie de l'image sur le réel, du volumique sur la mesure et d'une puissance, d'une détermination que rien n'arrête, restent malgré tout des symboles américains incarnés par ce même homme.
C'est vrai que de ce point de vue-là, il ne nous déçoit jamais. Il incarne une Amérique de l'outrance et de l'exubérance. À la différence peut-être de Barack Obama. Vous évoquez Clinton et Joe Biden. Mmh. Barack Obama était dans le contrôle permanent aussi, mais un autre symbole.
Noir, exactement.
Merci Juliette Funès d'avoir été ce soir avec nous pour la carte blanche du Club des Idées.
Europe Soir, le 18-20, édition spéciale élection américaine.
Julien Bugier.
19h19, on se retrouve dans une poignée de secondes avec nos invités pour poursuivre la conversation autour de cette élection américaine. Trump peut-il encore gagner justement ? Et de quoi son élection est le symptôme aux États-Unis ? Cette fracture des deux Amériques, on en parle juste après la pause. À tout de suite.
Europe 1.
Europe 1. The American Choice.
Julien Bugier.
19h22, on poursuit donc notre édition spéciale ce soir consacrée aux élections américaines, Europe 1 à l'heure américaine, avec ce soir dans le débat du Club des Idées, Yannick Mireur. Bonsoir, vous êtes politologue et spécialiste des États-Unis.
Bonsoir.
Marie-Cécile Nave, directrice de recherche à l'IRIS, spécialiste également américaine. Bonsoir Marie-Cécile.
Bonsoir.
Denis Lacorne, directeur de recherche au CERI Sciences Po, spécialiste des États-Unis également. Et auteur de Tous milliardaires, le rêve français de la Silicon Valley. Bonsoir Denis.
Bonsoir.
Xavier Yvon, toujours en direct avec nous depuis New York, correspondant européen aux États-Unis. Xavier, quelles sont les dernières infos dont vous disposez concernant le déroulement du scrutin ? Est-ce que, je répète ma question, hein, je vous l'ai posée il y a une heure maintenant, est-ce que jusqu'ici tout va bien ?
Oui, jusqu'ici tout va bien. Les Américains votent. Alors on n'a pas encore tout à fait tous les chiffres, mais on peut signaler par exemple que En Floride, on a déjà dépassé le niveau de participation de 2016, alors qu'il est que 13h23 ici sur la côte Est. Donc ça veut dire qu'il y aura une participation record. La dernière info, c'est que Donald Trump vient de faire le petit tour qui était prévu dans son quartier général de campagne en Virginie, juste à côté de Washington. Il a fait un petit discours devant ses équipes pour les remercier. Et il a aussi reparlé de la soirée électorale. Alors, il a redit ce qu'il avait dit depuis plusieurs jours, c'est qu'il veut qu'on connaisse le nom du vainqueur dans la soirée, que c'est normal qu'on sache le jour même. Bon, en fait, non, c'est pas normal, puisque il y a des fois on le sait pas forcément le jour même, c'est dans la nuit, c'est le lendemain, c'est beaucoup plus tard, vous le rappeliez en 2000 pour George Bush et Al Gore.
Oui.
Mais il a réfuté cette information qui avait été sortie par la presse américaine que il voudrait faire un discours de victoire avant même qu'on ait tous les résultats dès ce soir pour un peu forcer la chance. Il a juste dit que gagner pour lui c'était facile et perdre c'était pas facile.
Alors Donald Trump, justement, Xavier, peut-il encore gagner? Écoutez ce qu'il disait à ce propos il y a encore quelques jours lors de ses derniers meetings.
Je pense qu'on peut tout rafler. Je pense que demain peut être l'une des plus grandes victoires politiques de l'histoire.
Voilà, il est sûr de gagner, Donald Trump. Alors c'est normal de jouer sa chance hein, quand on est le challenger, puisqu'il est le challenger. C'est Joe Biden qui fait la course en tête avec 7 à 8 points d'avance. C'est 4 points de plus qu'Hillary Clinton il y a 4 ans, à la veille du scrutin. Est-ce qu'il peut encore gagner, Yannick Mirror, Donald Trump ?
Par précaution, mieux vaut dire oui, et surtout après ce qu'on a vécu il y a 4 ans. Les signes que nous avons les uns les autres, c'est que tout ça est quand même très granulaire et que donc il est difficile quand même de se risquer à faire des prédictions, même si, contre cet argument-là, il y a la permanence, la constance des avances sondées de Joe Biden dans les États clés en particulier, parce que c'est surtout ceux-là qu'il faut regarder. Mais il faut même descendre un échelon plus bas et regarder par canton. Et là, les choses sont, par exemple... des superviseurs démocrates dans l'Ohio me disaient hier qu'ils observent des dernières heures, donc ça fait hier dans la nuit, qu'ils m'ont écrit une poussée de vote Trump. Voilà. On peut avoir quand même des surprises, même si en l'occurrence l'Ohio, on ne l'attendait pas, qui est généralement un swing state. Cette fois-ci, on n'attendait pas particulièrement bleu, mais plutôt rouge, républicain.
Ce sont des états pivots qui changent d'une élection à l'autre et qui passent de démocrate à républicain et qui sont essentiels pour avoir la majorité des grands électeurs.
Du fameux système un petit peu tordu et vieillissant maintenant.
Oui.
Des grands électeurs, on en reviendra peut-être plus tard.
Mobilisation record, près de 100 millions d'électeurs ont voté par anticipation. Xavier, notre correspondant, le disait à l'instant. C'est vrai qu'on va vers une participation historique. Il y a 4 ans, 140 millions d'Américains avaient voté. Ce chiffre sera aujourd'hui largement dépassé. À qui, Marie-Cécile Nave, cette mobilisation historique peut-elle profiter? Qui se mobilise aujourd'hui, qui ne s'était pas mobilisé il y a 4 ans?
Alors, c'est une très très bonne question. C'est vraiment l'enjeu de savoir qui a déjà voté. Parce que qui va voter aujourd'hui, on pense que c'est surtout les électeurs de Trump parce qu'ils ne craignent pas la pandémie et les conditions d'hygiène dans les bureaux de vote, ce qui est moins le cas, semble-t-il, d'après les enquêtes d'opinion des démocrates, qui, là encore d'après les enquêtes d'opinion, ont surtout voté, beaucoup voté par correspondance. Mais qui a voté aussi en anticipation dans les bureaux de vote qui étaient ouverts dans un très grand nombre d'États c'est à voir. En tout cas, les Américains donnent une leçon de démocratie ce soir et depuis un mois, on se moque beaucoup d'eux en disant qu'ils ont élu Trump, etc. Mais ils donnent une leçon de démocratie avec cette mobilisation.
Même question, Denis Lacorne. À qui profite d'abord, cette mobilisation, si tant est qu'il y ait une réponse ce soir à donner? On dit par exemple que les jeunes qui ne s'étaient pas mobilisés il y a 4 ans sont en train de se mobiliser en masse pour faire barrage à Donald Trump. C'est vrai?
Le problème, c'est que les jeunes votent beaucoup moins que les gens d'âge mûr ou les seniors.
Oui.
Leur taux de participation est très faible, de 20 à 30%. Donc, en général, c'est très, très faible. Alors, on peut espérer, effectivement, que la participation sera plus forte de leur côté. Il y a des signes que ça le sera peut-être. Et surtout, on peut espérer que les jeunes qui soutenaient Sanders contre Hillary Clinton et qui se sont souvent abstenus en 2016 reviennent au sein du parti et soutiennent Biden. Donc, ça c'est l'espoir. Mais en même temps, je serais moins optimiste sur la démocratie américaine, la leçon de démocratie, parce que un grand test de la démocratie, c'est la qualité de la passation des pouvoirs et le caractère pacifique d'une passation des pouvoirs. Et là, on n'est pas sûr. Trump a laissé entendre que ça pourrait mal se passer, que s'il perdait l'élection, c'est parce qu'il y a eu de la fraude. Et donc, il laisse entendre...
Vous ne pensez pas qu'il bluffe?
Il bluffe, mais on ne sait jamais avec lui. Il a quand même laissé entendre que si des gros bras intervenaient dans les bureaux de vote, il ne serait pas contre.
Oui.
Things happen. Les choses peuvent se passer, disait-il. Et là, il ne bluffe pas, c'est quand il a affirmé que il pourrait proclamer la victoire dès ce soir. C'est impossible.
Oui, c'est impossible.
En Pennsylvanie, on compte les voix par correspondance seulement à partir de demain. Donc c'est impossible de proclamer une victoire ce soir.
Alors on se retrouve dans quelques secondes et on parlera justement de cette menace du chaos qui guette les institutions américaines. A tout de suite, 19h28.
Europe Soir, le 18-20, spécial présidentielle américaine et Julien Bugier.
19h31, on est toujours ensemble avec notre édition spéciale consacrée aux élections américaines, avec ce soir le débat du Club des idées. On parlait juste avant la pause de la menace d'un chaos et d'une crise institutionnelle aux États-Unis. C'est vrai que 56% des Américains redoutent que l'incertitude électorale bascule dans la violence. Yannick Mirreur, vous êtes politologue et spécialiste des US. C'est vrai que Trump n'a pas caché l'idée de ne pas forcément reconnaître le scrutin, en tout cas dans les prochains jours s'il lui était défavorable. Et il n'a pas caché non plus que s'il avait précipité la nomination d'Amy Coney Barrett à la Cour suprême, c'était dans le but de renforcer sa majorité dans le cadre contentieux, car c'est cette Cour suprême qui devra arbitrer.
Oui, c'est assez fidèle à sa façon, et c'est tout le problème. C'est pas tellement qu'il soit républicain, et puisqu'il a été démocrate dans le passé, donc c'est pas la question, c'est surtout sa personnalité qui piétine, ce qui est une décence qui devrait être partagé et consensuel, c'est-à-dire que la Cour suprême, c'est par définition la Cour suprême le pilier des institutions aux États-Unis et qui donc il doit être bien prudent s'agissant des lignes partisanes, politiques peut-être, mais partisanes. Or, il n'hésite pas à en faire un instrument. C'est une des grandes questions. Un des grands dommages qui restera sans doute après lui, même si le fait qu'il y ait une majorité dite conservatrice à la Cour suprême n'indique pas automatiquement des positions favorables au pouvoir républicain en place.
Oui.
Bon, ça y est un peu tôt pour dire si, selon les résultats, la Cour aura, comme en 2000, entre Gore et Bush, à se prononcer sur le vainqueur de l'élection.
Oui, il avait fallu attendre, on le rappelle, 36 jours pour départager l'état de la Floride.
On peut espérer qu'on aura des résultats plus clairs et qu'on ne sera pas obligé de passer par cette case-là.
Même question, Marie-Cécile Nab, directrice de recherche à l'IRIS, spécialiste également évidemment des États-Unis. Il y a un risque de chaos et de violence aux États-Unis, c'est vrai, ou on agite le chiffon rouge pour se faire peur ?
Des débordements, il y en aura. Et d'ailleurs, toutes les grandes villes se barricadent depuis quelques jours. Il y aura des débordements. Ça sera sans doute ponctuel. On ne va pas aller vers un chaos général.
Et des débordements de quel camp, d'ailleurs ? Parce qu'on parle beaucoup des suprémacistes, des soutiens de Donald Trump, qui sont des férus d'armes à feu, de la
d'ailleurs,
violence parfois.
Oui, et d'ailleurs, il les appelle à se tenir prêts. Hein, en meeting, mais non seulement en meeting, mais aussi dans les débats avec Joe Biden, il a appelé les groupuscules d'extrême droite à se tenir prêts.
Les Proud Boys, notamment.
Les Proud Boys. Stand back and stand by. C'est-à-dire, tenez-vous prêts. Donc, il est possible qu'il y ait des débordements, notamment si c'est serré, mais aussi si Biden bénéficie d'une vague bleue, ce qui est un scénario possible, et auquel cas, c'est plutôt de ce côté-là que la difficulté à reconnaître la défaite se manifestera.
C'est un élément important des 4 ans passés à la Maison-Blanche de Donald Trump. Denis Lacorne, vous êtes directeur de recherche aux séries Sciences Po. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui deux Amériques devenues homogènes, qui se font face, qui ne se parlent plus, avec des clivages géographiques très forts. 62% des électeurs urbains se disent démocrates, 31% se réclament du parti républicain. La tendance évidemment s'inverse en zone rurale. Deux Amériques qui ne regardent pas la même télévision, CNN pour les uns, Fox News pour les autres, qui ne décorent pas, j'ai vu que c'était une étude qui avait publié ça, qui ne décorent pas leur appartement de la même manière. Horloge et drapeau pour les conservateurs, planisphère pour les démocrates. Même le choix des commerces pour faire les courses est différent. Ils sont irréconciliables, ces deux Amériques ?
Oui, c'est vrai qu'il y a, il y a vraiment deux Amériques. C'était l'objet d'un très bel article de Simon Chama dans le Financial Times. Et une Amérique qui est, dans le fond, décrite comme une apocalypse socialiste, celle de Biden, qui est, entre parenthèses, d'après Trump, il est anti-dieu et pour les armes à feu. Voilà comment il définit son adversaire. Et c'est quelqu'un qui serait le représentant d'une Amérique des immigrés, des damnés de la terre, qui vont ruiner l'Amérique en socialisant son système de santé, qui vont construire des logements sociaux dans les banlieues prospères. Donc c'est l'horreur.
Mais c'est une crise d'identité aussi qu'il y a derrière, c'est-à-dire une Amérique conservatrice.
Oui, mais lui,
blanche.
Alors, à l'inverse, disons, du point de vue démocrate, l'Amérique de Trump, c'est quoi ? C'est un bouffon, un xénophobe, un protectionniste, un croisé de l'Amérique blanche qui est chrétienne, dont la conduite est criminelle vis-à-vis des victimes du Covid, vis-à-vis des immigrés, et qui se prétend d'ailleurs de façon scandaleuse comme le meilleur héritier de Lincoln, alors que tout ce qu'il fait, c'est encourager le suprémacisme et refuser d'accepter qu'il y a des problèmes avec la population des immigrés et avec les Noirs, notamment après le meurtre de George Floyd.
Oui, c'est la question.
Donc,
que
c'est un, vous voyez, c'est très très tendu. C'est vraiment deux univers totalement. Oui. Mais ça, c'est la rhétorique. La réalité est peut-être différente. C'est-à-dire qu'il y a aussi des modérés chez les Républicains et des modérés chez les démocrates. Mais si vous lisez la presse, si vous écoutez les différents médias dont vous parlez, Fox News contre MSNBC, bien vous avez ce contraste incroyable entre deux Amériques opposées.
Un mot, Marie-Cécile Nave.
Toute l'Amérique n'est pas galvanisée, hein, n'est pas super supporteur de Trump ou super supporteur de Biden. Les affrontements qu'on peut voir dans la rue ou les médias ultra-partisans, ça ne concerne pas tous les Américains. L'immense majorité des Américains, évidemment, a des opinions politiques, mais n'est pas galvanisée, n'est pas dans le militantisme. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ne votent pas, qui ne s'intéressent pas à la vie politique. Oui. Là, on aura peut-être un record de participation, mais il y aura au moins 30 ou 40%, voire plus d'abstention. Donc, c'est aussi ça, l'Amérique.
Yannick Mireur, à l'instant, Denis Lacorne évoquait George Floyd, qui est devenu un symbole, en quelque sorte, des tensions qui règnent dans le pays. La mobilisation après l'assassinat de George Floyd par un policier en mai dernier à Minneapolis a basculé dans quelque chose de planétaire, hein, y compris chez nous en France. Et on a vu ces deux Amériques là, s'affronter physiquement, face à face, les uns contre les autres. Ça a été un élément de bascule de cette mandature de Donald Trump ?
Oui, ça restera comme un élément marquant, bien sûr, d'autant que ça puise très profond dans l'histoire des États-Unis.
C'est les vieux démons qui ressortent, le racisme, la violence policière.
Voilà, on peut le dire comme ça, et puis avec des spécificités américaines qui ne sont pas près de disparaître, et qu'on a du mal, nous, à comprendre, comme la police, et puis la structuration aussi de la police, la question des violences policières, ou de la codification de l'engagement, disons, des interpellations par la police. Ce sont des sujets qui sont très différents chez nous et qui ne sont peut-être pas aussi graves. Il faut dire que c'est un pays vaste et avec la liberté du port d'armes, donc la mortalité, quand vous êtes policier, elle est beaucoup plus élevée qu'ailleurs. Mais je voudrais rebondir dans ce même esprit.
Allez-y.
Pour vous répondre à ce que Marie-Cécile vient de dire. Je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a quand même un énorme décalage entre ce que nous observons, nous sommes spécialistes États-Unis qui avons vécu là-bas, vous qui êtes journalistes, des hommes politiques, etc., qui suivons ces choses-là, et la grande majorité silencieuse qui s'en fout, en fait, qui regarde surtout son problème de job, la sécurité sociale et les questions économiques. C'est une remarque d'ailleurs qui vaut dans tous les grands pays qui votent, enfin, et dans tous les grands états de droit. Je pense qu'il y a un décalage et que, du coup, la violence qu'on attend peut-être d'une guerre civile américaine autour de Donald Trump...
Ça n'est pas nous, hein. C'est aussi des insiders américains, par exemple,
oui,
des organes de contrôle. C'est par exemple l'ancien collaborateur de Barack Obama, qui est aujourd'hui à la tête d'une institution de surveillance, ce genre de choses. Voilà. Moi, j'ai vu des articles et des messages d'alerte qui venaient d'un peu partout, quand même, aux États-Unis.
Je ne dis pas que c'est infondé. Hein. Je dis simplement que, peut-être à se focaliser sur la situation politique, peut-être que c'est un petit peu exagéré et que les lignes de fracture qu'on observe aujourd'hui autour des questions dites culturelles, et ceci, ça ne date pas de Trump, il est le symptôme plutôt que la cause. Ça remonte malheureusement à une vingtaine d'années. Je ne vais pas rappeler la présidence de George W. Bush, etc., ce serait trop long. Mais ces lignes de fracture culturelles, elles sont réelles, elles sont prégnantes, et en même temps, mon sentiment, ce serait qu'elles pourraient, au fond, assez relativement s'effacer dans une recomposition post-Trump, en l'occurrence, mais ce n'est qu'une parenthèse, si effectivement il est battu, autour de la question plutôt économique et sociale, et le grand sujet qui domine la vie politique américaine depuis 30 ans, je pense, c'est-à-dire le rôle de l'État et le rôle du marché.
Bien, on marque une nouvelle pause, 19h39, on se retrouve dans une poignée de secondes et on parlera de l'impact de cette élection aussi pour nous et pour le monde dans son ensemble qui ce soir, nous dit-on, retient son souffle. À tout de suite.
Europe 1.
Europe 1, inside the American election.
Édition spéciale présidentielle américaine. Et Julien Bugier.
Il est 19h41 et on poursuit effectivement notre édition spéciale consacrée aux élections US avec le débat du Club des idées. Alors le monde retient son souffle, nous dit-on. D'abord, est-ce que la France et l'Europe ont, selon vous, un candidat privilégié ? Qui veut répondre ? Denis Lacorne.
Un candidat privilégié ?
Est-ce que la France et l'Europe préféreraient une élection de Donald Trump ou de Joe Biden, à votre avis ?
En France, on a toujours soutenu les démocrates. On était pour Obama, peut-être moins enthousiaste avec Hillary Clinton, mais en général, on comprend bien le point de vue démocrate, on a toujours les difficultés à comprendre le point de vue républicain dont les valeurs sont très différentes.
Je vous pose la question
françaises.
Parce que c'est vrai que Trump, oui. dans sa façon de gouverner, oui. Avec l'outrance, ses tweets très éructifs, on dit qu'il a du mal à se concentrer, qu'il n'aime pas les dossiers techniques. C'est vrai qu'il a déstabilisé le langage feutré de la diplomatie et du
oui, mais c'est un homme de télévision.
C'est
l'homme de la télé-réalité. Donc on peut très bien imaginer quelqu'un qui est très très bon à la télévision en France et qui réussirait de la même façon. Le problème, c'est qu'il est devenu un peu trop bouffon, c'est-à-dire qu'au lieu d'être le roi, il est devenu le bouffon du roi, et c'est un problème dans l'outrance. Et en même temps, je voudrais revenir sur le débat qui était évoqué tout à l'heure. Ce n'est pas la guerre civile, mais je crois qu'on est dans une situation de guerre civile froide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de violence imminente, mais il y a des formes d'intimidation qui sont quand même inquiétantes, le dernier exemple étant l'autocar de Biden qui circulait au Texas, qui a été bloqué sur l'autoroute par des partisans de Trump. Donc oui. là, il y a un petit problème quand même. Et on parlait aussi de boutiques qui se barricadent, on met des planches de bois sur les fenêtres. Ce n'est pas seulement à Washington ou à Manhattan, c'est dans des toutes petites villes de Californie où les commerçants ont peur. Ils ont peur d'incendies, d'émeutes. Alors, c'est peut-être exagéré, mais il y a un climat de peur qui est réel. Et auquel qu'on ne doit pas négliger. Et en même temps, le vrai problème, c'est pas l'intimidation physique, c'est plutôt les tentatives, les techniques de suppression du vote ou de tricherie électorale encouragées par Trump. C'est là qu'est le vrai problème.
Alors, Marie-Cécile Nain, vous êtes directrice de recherche à l'IRIS. Est-ce que cette élection peut changer la relation entre les grands de ce monde et l'Amérique, où Joe Biden et Donald Trump, c'est un peu la même chose finalement?
Alors, Biden a promis qu'il restaurerait la confiance avec les alliés, les partenaires traditionnels des États-Unis, donc en particulier l'Union européenne, puisque les relations sont très tendues avec l'Union européenne, en général, avec la France, avec l'Allemagne.
Il y a la forme et le fond, vous voyez?
Oui,
c'est-à-dire
et sur
peut
le
peut mettre
fond,
la forme, mais rester sur position assez dure, et sur la guerre commerciale, et sur le...
Exactement, c'est-à-dire que sur le fond, les relations commerciales, en particulier avec l'Union européenne, ne sont pas forcément... plus à l'avantage de l'Europe. Hein. On se rappelle qu'avec Obama, il y avait déjà eu aussi des relations tendues. Mais juste pour préciser ce que vous demandiez tout à l'heure, est-ce qu'en Europe, on souhaite la victoire de Biden ou de Trump? Je ne suis pas sûre qu'en Europe, tout le monde souhaite la victoire de Biden. Si vous prenez la Hongrie de Orban ou la Pologne, ou une partie de l'extrême droite qui n'est pas forcément au pouvoir en Europe, mais qui est aux portes du pouvoir dans un certain nombre d'États.
Je parlais plutôt des représentants des institutions européennes, de Bruxelles et de la Commission européenne.
Là, c'est tellement difficile de discuter avec Trump quand on n'est pas un dictateur, parce que Trump a donné beaucoup plus de gages aux dictateurs qu'aux partenaires traditionnels.
Kim Jong-un en Corée du Nord,
rompu,
notamment.
Voilà, et a rompu avec beaucoup de cadres du multilatéralisme. Et Biden a promis qu'il reviendrait dans l'accord de Paris sur le climat, par exemple. Sans doute qu'il reviendra dans l'OMS, sans doute qu'il reviendra dans l'UNESCO. Donc ça aussi, c'est des cadres de dialogue, des espaces de discussion qui sont plus sereins.
Yannick Mireur.
Je vous répondrai oui, on préférerait sans doute un apaisement parce que la disparition, encore une fois, la personnalité de Trump est tellement abrasive, erratique, difficile à suivre, que ça finit par lasser. Et donc ça serait un effet d'apaisement dans un monde qui est quand même un petit peu en feu avec le Covid, avec l'arrivée de la Chine et toutes les questions économiques et stratégiques que ça soulève. Et on a réalisé, ce serait ça un héritage très positif, moi je l'ai toujours dit depuis le début, qu'il avait raison absolument sur une chose, c'était sur la Chine, et que ça nous a permis aussi de nous réveiller. Il y a même consensus maintenant, républicain-démocrate, sur le fait que les États-Unis doivent faire front face au régime chinois.
Et en même
nous
temps,
avons aussi
Yannick,
intérêt à faire pareil.
Et en même temps, c'est vrai ce que vous dites, c'est vrai ce que vous dites. Mais sur ce point, et puis il y a la crise du Covid qui nous a réveillés aussi, qui nous a montré qu'on était trop dépendant de la Chine sur des produits comme des secteurs de la santé, les médicaments, les masques, les tests et tous ces produits-là, et puis sur l'industrie lourde. Mais sur ce point précisément, il a perdu quand même Donald Trump. L'économie chinoise repart avec 5% de croissance, et après l'instauration de centaines de milliards de taxes à l'importation, il a fini par signer avec la Chine un accord intermédiaire et il est prisonnier aussi des achats extérieurs, donc du coup il n'achète plus en Chine maintenant, mais je crois qu'il achète au Vietnam, au Cambodge, enfin dans des pays qui sont dans la zone Asie.
Voilà, bien sûr, non, mais
il n'a pas gagné
son
pari.
Le résultat de sa politique commerciale, il est négatif. Par exemple, les taxes, elles sont payées pas par les Chinois, comme il le disait, vous vous rappelez l'année dernière ou il y a deux ans, mais elles sont payées par le consommateur américain, qui n'est pas le consommateur final, qui est simplement un producteur industriel, un manufacturier, qui a besoin de certaines pièces pour produire son produit. Bref, donc la politique, elle est un échec retentissant. Ce qui, en revanche, simplement par faute de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est quelqu'un qui manque de culture politique, qui n'est pas tout à fait structuré, qui n'a pas de stratégie, et donc tout ça va dans tous les sens. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Joe Biden, qui reprendra le ton, enfin en tout cas la direction plutôt, mais en revanche le ton et la façon seront différentes. Et on a intérêt à ce que, donc, de mon point de vue, ce soit
un mot de Denis Lacorne et puis on retournera aux États-Unis avec notre
correspondant. C'est-à-dire ce qu'on aimera chez Biden s'il est élu, et je crois que c'est quand même probable qu'il soit élu, c'est que Biden est rationnel. Biden lit ses dossiers, il travaille de façon compétente et il est entouré surtout, d'une bonne équipe. Le problème de Trump, c'est qu'il n'écoute pas ses conseillers et il ne lit pas ses dossiers.
Et puis quand il n'est pas d'accord avec eux, il les vire.
Voilà, et il est totalement irrationnel. C'est un homme qui ne peut pas se concentrer. C'est un des gros problèmes de Trump. Et il y a maintenant une centaine de livres qui sont sortis sur Trump et qui révèlent combien il a la mentalité d'un enfant de 8 ans et le vocabulaire d'un enfant de 6 ans. C'est quand même un problème.
Bien, Xavier Yvon, dernière intervention, toujours en direct de New York. Vous êtes d'accord et vous partagez ce qui a été dit ?
Oui, alors je suis moins bien placé en étant aux États-Unis qu'en Europe pour savoir ce que l'Europe attend d'un nouveau président américain. Mais c'est vrai que sur la question du soulagement, oui, si Donald Trump est battu cette nuit et remplacé par Joe Biden, il y aura un énorme ouf de soulagement qu'on entendra monter d'un peu partout dans le pays. Il y aura évidemment de la colère chez les partisans de Donald Trump. Il y a quand même une Trump fatigue dans le pays, même chez les gens dont vous parliez, qui ne sont pas forcément intéressés, qui ne suivent pas au quotidien l'élection, etc. Trump fait tellement de bruit qu'on ne peut pas ne pas l'entendre. Et y a cette fatigue, voilà, on aimerait bien. D'ailleurs, je pense, je ne sais pas, on verra le résultat, que Donald Trump a fait une petite erreur dans le surnom qu'il a donné à Joe Biden. D'habitude, ça marche bien, ces surnoms. Il avait bien collé le surnom Crooked Hillary, l'escroc à Hillary Clinton. Là, Sleepy Joe, en fait, c'est presque une promesse pour les Américains, parce que ça va être du calme si Joe Biden est élu.
Oui, c'est plutôt un petit mot qui l'a rendu sympathique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure également avec nos invités. Merci Xavier, et vous restez évidemment sur Europe 1 toute la soirée, toute la nuit pour suivre en direct le résultat de ces élections américaines. Merci à vous trois d'avoir partagé ces quelques moments de réflexion en direct dans Europe Soir.
Europe Soir, le 18-20, édition spéciale élections américaines.
Julien Bugier.
À suivre dans quelques instants, 19h49, les archives d'Europe Soir. Et aujourd'hui, retour sur l'élection américaine. Tiens, on en parlait de 2000, où l'Amérique avait dû attendre, tenez-vous bien, 36 jours pour en connaître le vainqueur. C'est un certain George W. Bush qui avait gagné l'élection. À tout de suite.
Europe 1.
Europe 1. Europe 1. The American Choice.
Julien Bugier.
Le club des idées élections US se poursuit. On plonge maintenant, comme chaque soir, dans les archives d'Europe Soir pour éclairer l'actu. 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour où.
Un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Et ce soir, nous allons vous raconter le scénario le plus rocambolesque des élections américaines. Bonsoir Pauline Jacquot.
Bonsoir.
Avec vous, nous allons revivre cet affrontement qui a marqué les États-Unis. George Bush, le républicain, contre Al Gore, le démocrate. Nous sommes le 7 novembre 2000, le grand soir de l'élection présidentielle, comme ce soir. Et l'Amérique ne sait pas encore qu'elle va vivre 36 jours totalement ubuesques.
Non, effectivement, la soirée bat son plein. L'effervescence agite les salles de rédaction et peu avant 20h, les présentateurs prennent l'antenne. CNN, ABC, CBS annoncent Al Gore vainqueur. Puis coup de théâtre, volte-face. Non, ce n'est pas ce démocrate qui sera le 43e président des États-Unis. Les Français se réveillent alors comme les Américains se sont couchés, persuadés que le camp républicain remporte l'élection.
8h21, l'actualité en direct. Avant de rejoindre Jean-Pierre Elkabbach à New York, nous filons à Washington. Jean-Bernard Cadier, les télévisions ont tranché.
Le prochain président des États-Unis s'appelle George Walker Bush.
Oui, mais finalement, non. C'est encore raté au cœur de cet imbroglio politique, la Floride, l'état clé qui ouvre les portes de la Maison-Blanche. Le résultat est trop serré. Al Gore ne se rétracte pas, il demande le recompte des voix. What a mess, quel foutoir, titre le New York Post. Sur Europe 1, Phil Gordon, vice-conseiller de Bill Clinton, est au micro de Jean-Pierre Elkabbach.
L'Amérique n'a donc toujours pas de président.
C'est ça, c'est la confusion qui règne à Washington depuis 48 heures. Vous avez dit que nous n'avons pas encore un président et je pense que ce sera le cas pendant quelques temps encore. Personne n'a jamais vu ça. Je pense que si on avait écrit ça comme un roman, personne ne l'aurait jamais cru.
Visionnaire, en effet, Phil Gordon, parce que cette élection américaine, Pauline, tourne de plus en plus à l'absurde.
Oui, en Floride, on apprend qu'il y a ces bulletins de vote qu'il faut poinçonner. Si le petit bout de papier n'est pas correctement enlevé, le vote n'est pas valable. Ce genre de choses qui nous paraît à peine croyable dans la première puissance mondiale. Les électeurs porte plainte, les machines ne fonctionnent pas, ils n'ont pas pu voter correctement, les bulletins sont mal faits, ils ont voté par erreur pour George Bush. Les militants manifestent comme cette démocrate en Floride.
Il faut en finir, dit-elle, avec ce brouillard complet. Je me sens complètement floué et je me demande pourquoi les choses ont tellement traîné jusqu'à présent. Il faut maintenant mettre la pression.
Sur le terrain, les deux camps envoient leurs avocats, bataille judiciaire à Palm Beach. Faut-il compter manuellement les voix ? Combat épique dans cette Floride sans vainqueur. Nous sommes déjà à la fin du mois de novembre.
Oui, et c'est à ce moment-là, Pauline, que la Cour suprême de Floride prend une décision. Elle donne raison à Al Gore. Elle autorise le décompte manuel des voix.
Et le 27 novembre, le secrétaire d'État déclare George Bush vainqueur de la présidentielle en Floride avec 537 voix d'avance. Rendez-vous compte, ce n'est même pas une toute petite gouttelette dans ce pays de 328 millions d'habitants. Mais peu importe, le républicain est prêt, dit-il, à assumer le rôle de président des États-Unis.
L'élection a été serrée, mais ce soir, après que l'on compte, recompte et recompte encore à la main, Dick Cheney et moi avons l'honneur d'avoir gagné l'État de Floride, ce qui nous donne le nombre de grands électeurs pour gagner l'élection.
537 voix d'écart, c'est incroyable, on n'est pas à trifouiller les oies, on est en Floride aux États-Unis.
En Floride aux États-Unis, donc cet État clé est évidemment impossible à accepter, ces 537 voix d'écart pour le camp démocrate. Al Gore conteste encore une fois, mais début décembre, la Cour suprême des États-Unis entre dans l'arène. Stop, il faut en finir. Les États-Unis ont presque atteint les limites de la démocratie. Il faut un président, c'est vital. Jamais elle n'avait eu à prendre cette décision en 210 ans d'existence. Ce président, ce sera George Bush. Al Gore finit par abdiquer.
Qu'il n'y ait aucun doute, je suis en profond désaccord avec la décision de la Cour suprême, mais je l'accepte. Et ce soir, pour l'unité de notre peuple et pour la force de notre démocratie, je reconnais ma défaite.
36 jours de suspense,
36 jours
qui ont marqué l'Amérique, renforcé les crispations entre républicains et démocrates, jeté le doute aussi sur la légitimité de ce système de vote aux États-Unis, le système des grands électeurs qui reste donc toujours en vigueur aujourd'hui.
Bon, 36 jours, on n'est pas rendu, donc on verra les résultats à partir de demain, spécial toute la soirée, toute la nuit, et à partir de demain dans la matinale de Mathieu Béliard sur Europe 1. Merci Pauline Jacquot.
Europe Soir, le 18-20, édition spéciale élection américaine.
Julien Bugier.
Ouais, quasiment 20h, vous restez avec nous. À ne pas rater jusqu'au petit matin, je le disais, notre grande nuit électorale sur les élections américaines avec nos correspondants, nos envoyés spéciaux. Et puis, à partir de 5h, rendez-vous pour notre matinale spéciale avec Mathieu Béliard et ses invités pour analyser les premiers résultats de ce scrutin historique européen à l'heure américaine jusqu'à demain soir au moins. Passez une très belle soirée en notre compagnie. Merci de votre fidélité. À demain, 18h.